Vous écoutez
RMC.
Vendredi 12 juin,
l'info sur RMC.
Il est 8h02 et Céline Kallmann est là pour les dernières informations. Céline, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. La colère des salariés de PSA, des employés polonais et espagnols appelés à remplacer des intérimaires français. Ça se passe à l'usine d'Ordin, dans le Nord. Nouvelle action forte et inédite de la police annoncée ce matin par les syndicats, très remontée contre Christophe Castaner. Vers des mesures sanitaires allégées, décision très attendue par les restaurateurs. Conseil scientifique et de défense aujourd'hui, allocution d'Emmanuel Macron dans 48 heures. Bienvenue à tous sur RMC. 318 000 emplois intérimaires détruits en France au premier trimestre, un chiffre catastrophique qui rend la décision de PSA d'autant plus révoltante et incompréhensible pour ses salariés. Le constructeur, écoutez bien, a décidé de renforcer ses équipes de nuit de l'usine d'Ordin, dans le Noir, renforcée avec des salariés venus de Pologne, mais aussi d'Espagne. Les intérimaires, eux, restent au chômage partiel. Pauline Delevoye et Lionel Top ont rencontré l'un d'eux, Dominique, il est écœuré.
Dégoûté, oui. Énervé, oui.
De la frustration et de la colère, Dominique est intérimaire depuis 3 ans pour PSA. Jusqu'au 17 mars, il était affecté à l'équipe de nuit, celle justement pour laquelle des salariés polonais ont été appelés en renfort.
Là, quand on voit qu'ils vont faire venir 400 polonais, on dit que le patron fait ce qu'il veut, en fait. Là, je suis député. Moi, j'ai un loyer de 650 euros à payer tous les mois. Comment je fais ? En tant qu'intérimaire français, je trouve qu'on nous aide pas.
Cette nouvelle organisation chez PSA à l'échelle européenne inquiète les syndicats. Franck Théry, délégué CGT.
On voit bien qu'il y a une volonté de supprimer tous les contrats d'intérim et de faire en sorte que le travailleur de PSA devienne nomade de l'industrie automobile.
Les premiers travailleurs polonais arriveront mardi. Le DRH de PSA Ordin, Luc Samsoun, assume.
Beaucoup de sites industriels sont encore en sous-activité. Et donc nous avons beaucoup de salariés du groupe PSA en Europe qui sont encore en activité partielle. Donc la priorité, elle est de donner aux salariés du groupe, dans un esprit de solidarité, de l'activité.
Le groupe PSA rappelle que ses salariés polonais seront payés au tarif français, comme le prévoit la réglementation.
Et Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État à l'économie, sera sur RMC et BFM TV à 8h30. La confiance a été rompue. Toute la question est de savoir si Christophe Castaner va réussir à inverser la tendance. Le ministre de l'Intérieur reçoit encore aujourd'hui syndicat des officiers et commissaires de police. La colère ne retombe pas après ses annonces sur la fin de la technique dite de l'étranglement. Ses mots aussi sur la tolérance zéro sont restés en travers de la gorge des policiers. Yvan Assioma, secrétaire national Île-de-France du syndicat Alliance Police, était il y a quelques instants sur RMC et il annonce une action très forte et inédite ce matin.
Une action symbolique à Paris, forte, qui n'avait jamais été faite par Alliance Police Nationale. On veut faire entendre au ministre, non pas la colère de nos collègues, parce que bien sûr ils sont en colère, mais ça va au-delà de ça. Nos collègues sont ulcérés. On ne demande pas le départ de Christophe Castaner parce que ce n'est pas l'ADN d'Alliance Police Nationale. On n'est pas des révolutionnaires. Nous, ce qu'on veut, c'est que notre ministre prenne ses responsabilités, que le ministre entende et revienne sur les déclarations qu'il a faites, tout simplement. On souhaite aussi la généralisation des pistolets à impulsion électrique. Pourquoi ? Parce que c'est la seule façon aussi de pouvoir maintenir une personne violente sans avoir de contact direct.
Dans l'actualité également, soupçon de viol contre Gérald Darmanin, la justice ordonne la reprise des investigations. En novembre dernier, la Cour de cassation avait ordonné de réexaminer la validité de non-lieu dont avait bénéficié le ministre des Comptes publics. C'était en 2018. Une femme l'accuse de viol, harcèlement sexuel et abus de confiance lorsqu'il était chargé de mission à l'UMP, des faits qui se seraient produits il y a 11 ans. RMC 8h06, les écoles vont-elles pouvoir alléger les mesures sanitaires ? Les restaurants vont-ils pouvoir enfin rouvrir complètement en région parisienne ? La demande est forte, la décision très attendue. Emmanuel Macron réunit ce matin un conseil scientifique, puis un conseil de défense. Le chef de l'État prendra la parole ensuite dimanche à 20h. Vous pourrez suivre d'ailleurs son allocution sur RMC. Et peut-être qu'il annoncera à ce moment-là la réouverture totale des restaurants. En zone verte, les établissements se sont adaptés tant bien que mal aux mesures sanitaires. Reportage à Lyon de Florence Donjon.
Dans ce restaurant, le gel hydroalcoolique est en bonne place et un panneau indique le port du masque obligatoire à l'intérieur. Mais dans les faits, les clients sont peu nombreux à le porter. Marc avoue à demi-mot faire moins attention.
J'aime pas les endroits où il y a trop de restrictions. Dans les bars ou les restaurants, porter le masque pour se déplacer, je trouve pas toujours ça nécessaire.
Bonjour. Philippe Langlois, le propriétaire, applique les consignes mais constate que ses clients ont besoin de revivre normalement. Il plaide lui aussi pour plus de liberté.
ça crée des freins quand même dans notre mode de travail. Et ça nous complique la vie quand même, c'est très compliqué. Sachant que la restauration est un métier très sensible sur l'hygiène, on est déjà formaté. Ce ne sont pas nos métiers qui sont plus à craindre.
Pour le docteur Garrigou Grandchamp, ces moments de convivialité sont importants et il estime que les risques de contamination sont minimes.
Je pense qu'on peut effectivement assouplir le déconfinement avec des clients, notamment dans les restaurants, qui soient un peu plus disciplinés et qui acceptent de porter leur masque quand ils se déplacent.
La préfecture du Rhône rappelle qu'elle effectue des contrôles et qu'en cas de non-respect des règles sanitaires, les établissements seront sanctionnés.
C'est un phénomène inquiétant qui est observé aux urgences ces dernières semaines. Les responsables du SAMU de Haute-Garonne alertent sur la surconsommation d'alcool des jeunes. Certains arrivent aux urgences inconscients. À Toulouse, chaque nuit, plusieurs sont hospitalisés pour coma éthylique grave. Jean-Wilfried Forquès.
Félix est étudiant dans une école de commerce. Les études, c'est fini. Alors les soirées, il les passe dans les bars ou chez lui, à boire avec ses amis.
On commence à boire et puis si on se sent bien dans la soirée, on boit. Et quand on voit qu'on n'en peut plus, on arrête. Ça dépend des soirées, ça dépend de avec qui on est. C'est compliqué de se fixer les limites parce que l'alcool, on n'a pas bu pendant 2 mois, donc on ne le tient pas forcément autant qu'avant. Ça peut arriver qu'on se fasse surprendre étant donné voilà, qu'on a plus l'habitude de boire.
Se faire surprendre et finir aux urgences, cela peut toucher aussi des ados. D'où cette mise en garde du docteur Philippe Frontin, directeur adjoint du SAMU à Toulouse.
C'est un cri d'alarme parce que pour l'instant, on arrive à contenir cette vague. On ne parle pas d'épidémie, évidemment, mais on contient cette vague parce qu'on a potentiellement les équipes pour y aller, pour les prendre en charge de façon correcte. Mais voilà, c'est juste un cri d'alarme. Il y aura forcément de ces quatre un drame chez quelqu'un de jeune et qu'on trouvera décédé.
Jusqu'à présent, les soirées arrosées concernaient les jeunes le week-end seulement. Mais depuis la fin du confinement, le SAMU enregistre 4 à 5 cas en moyenne chaque soir.
9 départements, vigilance orange, Finistère et Côte d'Armor pour fortes pluies, violents orages attendus sur le Languedoc et le Massif central. Attention à la grêle hier après-midi. Pas de blessés, mais la panique en Corse. À Ajaccio, des pluies diluviennes se sont abattues sur la ville à la mi-journée. Près de 200 personnes ont dû être mises en sécurité. Les vacances d'été approchent, mais les réservations des trains sont loin de faire le point en juillet. Pour l'instant, entre 10 et 15% de taux d'occupation seulement. Pourtant, il n'y a plus de restrictions pour les voyages. Difficile de se projeter, comme ont pu le constater Juliette Pietraszewski et Mago Bécard-Granier.
Dominique n'est pas certaine de partir en vacances cet été, mais une chose est sûre.
Si je pars, j'éviterai le train au maximum.
Pour des raisons sanitaires, plus on est loin des gens, mieux on se porte.
On n'a pas peur. Maintenant, ce n'est pas forcément intelligent de faire quelque chose qu'on peut éviter.
Tamara, ses 3 frères et sœurs et ses parents iront, eux, prendre l'air en Bretagne au mois de juillet, mais ils ne savent pas encore comment ils voyageront.
Pour l'instant, on ne sait pas trop si on y va en voiture ou en train. Parce qu'on n'arrive pas trop à se profiter. On pense qu'on va plus prendre quelque chose de dernière minute et donc on verra plus sur le coup. On sait très bien que maintenant tout peut être annulé du jour au lendemain.
De nombreux Français sont dans l'incertitude et hésitent à réserver leurs billets. Conséquence de la crise sanitaire, explique Josette Sixic, spécialiste des vacances.
Je crois que comme de toute façon on est dans l'expectative, on est dans l'attente, on regarde ce qui se passe, on n'est pas encore sûr du tout de ce qu'on va faire. Être sûr qu'on ne va pas être viré de son boulot, ça montre à quel point on est très timide encore de partir.
Pour l'instant, le taux d'occupation des trains en août n'est que de 6%. Mais la SNCF compte sur de nombreuses réservations de dernière minute.
Il trépignait depuis plusieurs jours les fans de Sony. Sony qui a dévoilé hier soir sa future console, la PlayStation 5. La date de sortie n'est pas encore connue, le prix non plus. Anthony Morel, mais on sait enfin à quoi elle va ressembler.
Hein. Bah oui, c'est un rectangle blanc qui se tient à la verticale. Un design très épuré, assez futuriste en fait. La PS5, elle tranche un peu avec les générations précédentes de la PlayStation. Mais c'est surtout sous le capot que la différence va se jouer par rapport à la PS4 que vous avez peut-être à la maison. Le nouveau modèle sera beaucoup plus puissant, ce qui devrait permettre de faire tourner des jeux d'un niveau de réalisme encore inédit. On a pu voir par exemple les premières images de Gran Turismo 7. C'est un jeu de course qui donne presque l'impression de jouer avec de vraies voitures à l'écran. Une autre amélioration notable, ce sont les temps de chargement qui seront drastiquement réduits. Ça, c'est un des aspects les plus frustrants hein, quand on joue sur console. Et puis la rétrocompatibilité, autrement dit, les jeux de la vieille PS4 continueront de fonctionner sur le nouveau modèle. 2 inconnus, vous l'avez dit, la date, même si on peut espérer l'avoir quand même avant les fêtes. Et puis le prix, ce sera un élément clé dans la bataille qui l'oppose à la future console de Microsoft, la Xbox Series X. Ce sera d'ailleurs probablement la dernière génération de consoles physiques avant le passage aux jeux vidéo, tout dématérialisé. Bah oui, les consoles de jeux, c'est une espèce en voie de disparition.
C'est incroyable, ça.
Incroyable.
Moi, je vois les jeux vidéo à la maison. Hein.
Ah bah oui.
Je vois que ça fonctionne. Hein.
Bon, les jeux de Formule 1,
pas nouvelle mal. Xbox, alors.
Nouvelle Xbox, bien sûr, ça va être la grande concurrente.
Parce que c'est le grand débat.
Bah, toujours, il hein. y a toujours... Il y a des guerres de chapelle. Il y a les pro-Sony, les pro-Microsoft, ils ont chacun leurs arguments. Ils comparent les consoles point par point, toujours. Ouais.
Et les jeux de Formule 1, ça fonctionne à fond.
Énorme carton.
Énorme carton. Hein.